Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Charlotte Cardin
et vous écoutez Les gens qui doutent.
Et juste de trouver qui j'étais comme artiste, ça a vraiment pris du temps. Tout le monde me disait il faut surfer sur la vague de tout et moi mon instinct était il faut tout faire sauf surfer sur cette vague parce que c'est pas une vague qui est à l'image de qui je suis.
Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse Charlotte Cardin, dont le deuxième album 99 Nights est l'un de ceux que j'ai le plus écouté cette année. Charlotte est canadienne, elle a commencé dans le mannequinat avant de se diriger vers la musique en participant à l'émission La Voix, donc l'équivalent au Canada de The Voice. Je traduis pour les Français. Je suis allée la voir en concert fin 2023 et c'était vraiment super. Donc dans la foulée, je lui ai demandé qu'on fasse un Gens qui doutent ensemble pour parler de plein de trucs, du fait de rêver de faire carrière dans la musique sans savoir si c'est vraiment possible, du moment où elle a réalisé que sa musique pouvait toucher d'autres gens que ceux de son entourage, de sa participation à La Voix qui n'était pas du tout représentative de la vraie vie d'artiste et des différences entre le processus d'écriture de son premier album et celui de son deuxième. J'espère que ça vous plaira. Yes. Déjà, bravo pour le disque et pour le concert. Moi, j'étais à Bruxelles.
C'était cool. Très merci. Cool. Ah, c'était chouette concert à Bruxelles. C'était... On s'est vraiment amusé. C'était une belle soirée.
Ouais, c'était très cool. Et le public était tellement intense et tellement à fond.
Tellement à fond, quoi. Ouais, c'était cool. Ouais. Je me souviens, c'était vraiment un des highlights de cette tournée, définitivement.
Je sais pas si t'en briefais, mais c'est un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent. Du coup, c'est quoi toi ton rapport? Est-ce que t'es quelqu'un de fort anxieux? Est-ce que tu te remets beaucoup en question ou est-ce que tu te laisses aller et on verra?
Non, je suis vraiment une personne anxieuse. Je suis vraiment une personne qui doute énormément, mais j'ai trouvé beaucoup de réconfort et de réponses à mes questions à travers le songwriting et à travers la musique depuis que je suis toute jeune. Et ça a toujours vraiment été une façon d'apaiser mes doutes parce que c'était un peu une partie de ma vie dans laquelle j'avais pas trop de doutes, en fait. Je sentais que la musique... et ça, c'était peut-être avant de commencer à écrire, mais le chant, c'était un truc qui m'appartenait juste à moi. Je savais que j'étais capable de toucher les gens avec ce truc qui m'appartenait. Et ça me permettait aussi de soulager ce besoin de self-expression, de création, de surplus d'émotions aussi. Ça a vraiment toujours été un peu un grand canalisateur pour moi. Mais évidemment, maintenant que j'en fais mon métier, ça vient avec plein de doutes aussi. Mais ça a vraiment été toujours une partie de ma vie dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de réconfort, la musique.
Et t'as réalisé quand que tu pouvais toucher des gens en chantant?
Je pense très jeune, mais pendant longtemps, je sentais que je pouvais toucher mes parents, ma sœur, mes amis, tout ça. Alors, je savais pas que c'était nécessairement quelque chose qui allait au-delà de ça. Je savais que moi, ça me faisait du bien et que ça rendait ma famille heureuse quand je chantais et que eux m'encourageaient vraiment à m'investir là-dedans. Mais je sentais quand même qu'il y avait un truc qui se passait quand je chantais, même quand je faisais les talent shows à l'école, les petits concerts de classe, les trucs comme ça, je sentais qu'il y avait un partage quand même et que moi, ça me faisait énormément de bien, mais que j'étais aussi capable de faire du bien à d'autres personnes, mais pendant longtemps, je me disais, c'est peut-être juste que mes amis me soutiennent là-dedans. Mmh. Alors, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de beau qui se passait. Et pour moi, et c'était vraiment une quête qui était vraiment personnelle à la base, parce que moi, je sentais que ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Mais j'ai assez vite senti que j'arrivais à toucher les gens, en tout cas, avec ça.
Tu voulais faire quoi quand tu étais petite?
Je voulais être chanteuse.
Ah ouais, déjà?
Ouais, ouais. Yeah, c'était, okay. C'était vraiment... C'était ce dont je rêvais à fond, mais je savais pas que c'était...
Que c'était un métier.
Mais je savais pas que c'était possible ou accessible, en tout cas, parce qu'il y avait personne dans ma famille qui était artiste. Et donc, j'avais aucune référence de ce qu'était ce métier-là et de ce que ça prenait et si j'avais ce qu'il fallait et tout ça. Mais j'en ai toujours rêvé, ouais.
Et du coup, quand t'as fait la voix... J'ai lu que tu étais arrivé là plus un peu par hasard, mais il y a quand même cet espoir derrière que ça mène quelque part.
Ouais, c'est sûr que à la base, je me suis retrouvée là parce que j'avais jamais fait d'audition pour quoi que ce soit, de casting. Puis je me disais, ah ben, ça va être une expérience personnelle, ça va me permettre de chanter pour un panel quelconque, voir ce qui se passe. Et finalement, je me suis rendue loin dans la compétition, mais oui, je pense qu'il y avait aussi peut-être cette curiosité à savoir si justement je pouvais toucher les gens au-delà de ma famille et de mes amis, de voir si effectivement ma musique, qui moi me faisait beaucoup de bien à un niveau très personnel, si j'étais capable, ouais, de, ou si j'avais ce qu'il faut en tout cas pour toucher plus de gens que juste les gens dans mon entourage proche. Et voilà, je pense que j'avais besoin de cette approbation quelque part pour me donner le feu vert pour continuer dans cette direction-là, parce que j'en rêvais, mais je savais pas si c'était possible ou si c'était accessible ou si, encore une fois, j'avais ce qu'il faut, quoi. Alors, je pense que j'aurais trouvé une autre façon de découvrir qu'effectivement c'était la seule chose que je voulais faire dans la vie et que j'allais à fond aller dans cette direction-là si ça avait pas été par la télé-réalité. Mais ça s'est avéré que pour moi ça a été ça. Et donc, même si ça a été une expérience un peu bizarre à plein niveau, ça m'a donné cette approbation. Et je crois que j'en avais besoin quand même de savoir que, voilà, que je pouvais faire ça et me faire confiance là-dedans, quoi.
Et c'est quoi qui était bizarre?
Ben, c'est sûr que les téléréalités comme ça, c'est vraiment pas représentatif de ce qu'est la vie d'un artiste. On peut vraiment te dépeindre. De la façon que le réalisateur choisit de le faire, tu chantes 30 secondes par semaine, puis soudainement t'es la star instantanée du moment. C'est juste vraiment pas représentatif d'une carrière en musique. Les gens mettent énormément d'espoir aussi dans cette compétition-là. Moi, je me suis retrouvée avec des gens qui faisaient de la musique depuis des années, ils mettaient tout ce qu'ils avaient dans cette compétition-là. Moi, j'étais encore à l'école, j'avais 17 ans et je me suis retrouvée là avec aucune attente, avec aucun... Puis alors c'est bizarre comme expérience. C'est vraiment... Et très vite, la plupart des candidats sont oubliés. C'est un peu... On signe des contrats très malsains au début de l'expérience et le gagnant se retrouve lié à ce contrat-là. Mais à la base, tout le monde, tous les participants, même si t'es une seule seconde à l'émission avant d'être éliminé, tu signes le même contrat. Et donc ça fait en sorte que c'est des contrats qui sont pas en faveur des artistes, mais c'est un peu, j'imagine que l'arrière-pensée derrière ça, c'est que bon, c'est le prix à payer pour avoir la visibilité de l'émission, tout ça, mais c'est pas des contrats qui sont sains et qui sont avantageux du tout pour les artistes. Alors moi, je remercie le ciel de pas avoir gagné cette émission-là, parce que je me serais retrouvée vraiment mal prise. Puis après ça, t'as pas la liberté créative que tu as quand tu peux faire tes propres choix, choisir ta propre équipe avec qui tu veux travailler. Bref, c'est quand même bizarre pour plein de raisons. Et je veux dire, c'est une télé-réalité, faut pas l'oublier. Mais ça fait partie de mon parcours. Puis j'ai appris plein de trucs en faisant cette émission-là aussi. Puis ça m'a permis d'avoir un peu ma première, entre guillemets, vraie expérience à la télé, d'apprendre à faire des interviews, faire plein de trucs connexes qui, au final, sont utiles dans ma vie, quoi.
C'est quoi le truc le plus important que t'as appris là-bas?
Ben, je pense que le truc le plus important, justement, que j'ai appris, c'est que ma voix, elle pouvait toucher des gens. Puis c'était vraiment quelque chose que je pense que j'avais besoin de ce de faire ce constat-là d'une façon ou d'une autre, parce que je savais pas si j'avais ce qu'il fallait pour être chanteuse, puis je savais pas en fait comment m'y prendre. Et donc juste de voir que bon, je recevais plein de messages de gens que ma musique touchait, que bon, ça m'a juste donné, je pense, le petit boost de confiance que j'avais besoin pour après me concentrer à fond sur ma musique, puis me plonger plus dans le songwriting, puis vraiment approfondir ce que j'avais déjà commencé de mon côté.
Comment t'as fait? Parce que avoir la légitimité, c'est une chose, mais après, comment t'as su, après l'émission, ce que tu voulais dire, ce que tu voulais dégager, maintenant que t'avais plus ce truc un peu tracé de l'émission, on te fait faire des reprises et tout ça?
Ça a vraiment été un processus qui a pris du temps. Quand je suis sortie de l'émission, j'ai pris 3 ans avant même de sortir une seule chanson. J'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs, j'ai écrit dans plein de styles différents. Je me suis vraiment dit, je savais que je voulais être auteure-compositrice. J'avais déjà écrit plein de chansons, mais j'avais pas encore trouvé mon truc à moi. Je pense que j'écrivais peut-être en empruntant les voix, les réflexes de d'autres personnes, d'autres artistes qui m'inspiraient. Et j'avais pas encore trouvé mon truc à moi. Alors, j'avais besoin de vivre des expériences. Je suis allée vivre à l'étranger quelques temps. À cette époque-là, j'étais mannequin. Alors, j'ai voyagé un peu pour la mode. J'ai essayé de me changer les idées, de vivre plein de trucs et d'approfondir mon songwriting et mes expériences de vie. Et juste de trouver qui j'étais comme artiste. Ça a vraiment pris du temps. Moi, tout le monde me disait, il faut surfer sur la vague de tout. Et moi, mon instinct était, il faut tout faire sauf surfer sur cette vague, parce que c'est pas une vague qui est à l'image de qui je suis. C'est des covers, comme tu l'as mentionné, c'est des 1 minute et demie de covers. C'est pas mon songwriting, c'est pas mon stylisme, c'est pas mon image, c'est pas, je veux dire, alors j'avais besoin de découvrir toutes ces choses-là en faisant des essais et des erreurs pendant quelques années. Et quand j'ai finalement sorti ma première chanson, Big Boy, qui a été suivie par un EP qui s'appelait lui aussi Big Boy, je savais ce que je voulais dire, je savais qui j'étais comme artiste et je pouvais présenter un projet dont j'étais fière vraiment, et vraiment en me disant, ben ça c'est ce que j'ai envie de faire, ça c'est ce que j'ai envie de raconter, ça c'est comment j'ai envie de... c'est ce que j'ai envie de communiquer avec mon image et tout ce qui est connexe à la musique sans qu'on le décide pour moi.
Et comment t'as su que t'avais trouvé que c'était ça?
Je sais pas, je le savais, quoi. C'est vraiment dur à expliquer. J'ai écrit plein de chansons et j'avais des doutes, et quand j'ai écrit Big Boy, c'est une anecdote qui est pas mal, ça, c'est que j'avais plusieurs maquettes de chansons que j'avais composées. J'habitais encore chez mes parents à l'époque. Je les avais enregistrées vraiment juste avec un petit micro dans mon ordi, tout ça. Et j'avais fait j'avais 2 documents sur mon ordinateur. J'avais un document maquette et un document qui s'appelait genre incertaine, ou un truc genre je suis pas sûre de que ce soit des bonnes maquettes. Mais dans le fond de mon cœur, dans le document incertain, c'était vraiment mes chansons que je trouvais un peu plus originales, un peu plus cool, mais peut-être un peu plus edgy, alors j'osais pas les montrer à qui que ce soit. Et quand j'ai rencontré Jason, qui est mon producteur depuis le jour 1, et qui maintenant écrit tout avec moi, mais à la base, il produisait mes trucs que j'écrivais de mon côté, je lui avais envoyé les 2 documents. Et il m'avait dit, mais le fichier incertain, il est génial, il faut qu'on... Et j'étais tellement contente, c'était presque un test, j'ai l'impression, parce que j'osais pas le dire, mais c'était vraiment les chansons que j'aimais. Et donc, il a été la première personne à me dire ça. Puis il était comme, c'est original, c'est un truc, c'est différent. Les autres chansons, elles étaient bien aussi, mais c'était un peu plus comme des ballades. C'est un truc un peu plus, je pense, formaté. Tandis que ça, c'était ma chanson Big Boy, qui était un peu plus edgy, qui parlait de trucs un peu plus personnels, tout ça. Alors, encore une fois, Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai su, et c'est toutes les chansons qui étaient dans ce fichier-là qui sont allées sur mon EP.
Mais j'ai l'impression que c'est souvent le cas, ça, les trucs qu'on a le plus peur de partager, de montrer en se disant, ouais, c'est perso, ça intéressera à personne et tout. C'est toujours ça qui va justement titiller les gens, quoi.
Mais souvent, je pense. Puis je crois que ça provient du fait qu'on, des fois, qu'on est hyper précis ou très personnel par rapport à une expérience qu'on exprime dans quelconque forme d'art, on se dit, ben, ça va peut-être être trop personnel pour que les gens s'y identifient, mais au final, je pense que le plus on ajoute de détails et de sincérité, plus les gens s'identifient. Moi, je repense à plein de chansons que moi, j'adore, qui sont hyper précises. Évidemment, c'est des choses que j'ai pas vécues textuellement, que l'artiste raconte, mais qui me font vivre des émotions tellement vraies. Et on peut, je pense qu'on peut s'imaginer encore plus dans le tableau qu'exprime l'artiste quand c'est précis et vulnérable. Et c'est quelque chose que je réalise de plus en plus. Et c'est trippant à réaliser aussi parce que ça me permet d'approfondir de plus en plus mon songwriting. Mais je pense que c'est justement ce qui s'est passé avec ce fichier incertain, entre guillemets. Ouais, comme tu l'as mentionné, je pense que les gens s'identifient aux choses qui sont vraies et qui sont ancrées.
Mais j'ai l'impression que le début de ta carrière, il est très cohérent dans le sens où le mannequinat, c'est l'endroit où tu dois un peu effacer ta personnalité au profit de marques, de trucs qu'on te dit de faire et tout. La voix, c'est t'as un peu plus de liberté, mais on te dit quand même assez précisément ce que tu dois faire. Et puis après, t'as vraiment, j'aime pas ce mot, mais éclos. Donc c'est assez étape par étape, j'ai l'impression, de plus en plus écouter ce que toi t'avais à dire, quoi.
Absolument, absolument. Puis c'est quelque chose que j'apprends encore à faire de plus en plus. Puis ça vient avec la confiance, avec l'âge, mais j'apprends encore, ouais, à suivre mes instincts d'abord et avant tout. Je pense que c'est le travail d'une vie pour moi, en tout cas, d'aller à fond dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on regarde chronologiquement, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que depuis que je suis toute petite, n'empêche que je sais là où j'ai envie d'aller avec mon songwriting, mais ça a juste été plus long atteindre ça pour plein de raisons. Je pense que je devais déconstruire certaines préconceptions, certaines volontés d'entrer dans un moule que j'avais l'impression qu'on m'imposait, mais au final, c'était moi qui m'imposais ces propres barrières-là. Mais le mannequinat, je pense que ça peut nécessairement aider à faire confiance à mes instincts. Ça a même un peu embrouillé, ça a brouillé certaines pistes, mais de me défaire de ça, de me défaire aussi de l'image qu'on m'avait en quelque sorte un peu imposée avec la voix, même si c'est pas quelque chose qui est conscient. Je sais que c'est pas un truc machiavélique de la production, c'est juste que la télé, tout va tellement vite au final, t'as pas le temps nécessairement de te poser les bonnes questions, puis alors tu fais des choix qui sont pas nécessairement les bons. Bref, c'est de la faute. Je pointe personne du doigt, mais c'est juste ça la situation. Et je pense qu'effectivement, de me permettre de me défaire de ça. Puis ça va aussi avec le fait que j'adore être très impliquée aussi dans tout ce qui est choix de visuel de mon projet. Maintenant, c'est vraiment important pour moi, les covers, les vidéos, toutes les images et tous les visuels, même la merch, tout ce qui est associé au projet. Pour moi, c'est important d'être impliquée là-dedans, justement parce que pendant longtemps, je sentais que j'étais pas nécessairement en contrôle de l'image que j'avais ou qu'on me donnait. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors, je le fais à fond, puis j'ai envie que ce soit hyper connecté avec qui je suis réellement, parce que ma musique l'est, alors je sens que tout le reste de mon univers créatif se doit de l'être aussi.
Ouais, j'ai l'impression que tous tes clips, c'est juste t'as pris un téléphone et t'as montré des choses, juste la vraie vie, quoi.
Ouais, ben surtout pour cet album-ci, qui est l'album 99 Nights, qui est vraiment un album qui est un peu un petit journal intime, et qui a été écrit pendant un été. Moi, je vivais plein de trucs personnels. Alors, les chansons sont un peu des petites fenêtres sur plein de moments de ma vie qui sont intimes. Il y a beaucoup de storytelling aussi, mais qui est très connecté à des émotions vraiment importantes que je vivais. Et donc, si on prend le cover de l'album, par exemple, c'est une vraie photo que mon amoureux a prise quand on était en voyage. Et quand j'ai vu cette photo-là, évidemment, en prenant la photo, j'avais aucune intention de la partager. C'était vraiment
juste boire un café.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment un moment intime de la vraie vie. Mais quand j'ai vu la photo, d'abord, c'était dans la même période de temps pendant laquelle j'ai écrit cet album-là. Alors, c'était cohérent dans la ligne du temps. Mais c'était, encore une fois, c'était un peu une petite fenêtre sur ma vie. Alors, je trouvais vraiment qu'il y avait ce côté vulnérable que l'album aussi, il y a cette vulnérabilité. Évidemment, bon, je suis nue sur la, on voit rien, mais je suis de profil. Il y a aucun filtre, aucun fla-fla, aucune, aucun artifice. C'est une vraie photo d'un vrai moment qui est un moment imparfait. Et c'est une photo qui est imparfaite elle aussi, elle a un grain que je trouvais qui... et donc bref, je trouvais que l'image était vraiment, la photo était vraiment à l'image de cet album. Et même chose pour les clips, j'avais envie que ce soit des petits moments qui représentent les chansons telles qu'elles le sont et telles que moi je les ai racontées et visualisées au premier jet créatif que j'ai eu avec ces chansons-là, quoi.
Pour l'enregistrement de l'album, le fait que ça a été écrit assez vite, la DA a été fixée sur un seul été, est-ce que t'as été chercher des émotions qui avaient un peu stagné en toi depuis longtemps, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très organique, des ressentis sur cet été-là uniquement
C'est vraiment plus spontané, plutôt des ressentis. J'avais vraiment envie de... Bon, je vivais plein de trucs au niveau personnel cet été-là, et j'avais le goût de me retrouver en studio. Et mon seul but en écrivant cet album-là, c'était d'encapsuler, si on veut, l'émotion que je ressentais en me pointant au studio ce matin-là, et de partir là-dessus et de voir ce que ça allait donner. J'étais avec des amis. C'est un album qui a été fait en collaboration avec des amis proches. Alors, je pouvais m'ouvrir, je pouvais parler de ce que je vivais, puis on pouvait partir sur un truc. Puis je pense que c'est ce qui donne un peu le côté aigre-doux à l'album. Il y a un côté vraiment bittersweet parce qu'il y a eu beaucoup de... On s'est vraiment amusé dans les sonorités. On est parti sur des trucs qui étaient spontanés sans trop se poser de questions. Mais en même temps, j'avais quand même le cœur lourd cet été-là. Et donc, ça a donné un peu un mélange de nostalgie, mais aussi de playfulness dans la musicalité des chansons, dans certains angles avec lesquels on a exploré les thèmes. Et donc, il y a cette dualité un peu sur l'album, mais c'est définitivement plus un album qui a été fait spontanément. C'est moins un truc où je me disais d'avance, je vais écrire sur... telle émotion ou sur telle... C'était vraiment comment je me sens en ce moment et comment ça se traduit en musique, en paroles, sur le coup.
Okay. Et par rapport au premier album, où là, justement, t'avais dû aller un peu plus trifouiller dans les émotions et aller gratter peut-être dans des choses un peu bloquées, est-ce que quand t'as écrit le premier, t'as dû aller gratter dans des choses où tu t'es dit « Ouf, peut-être je vais pas aller par là parce que c'est pas joli des fois ce qu'il y a dans le fin fond des émotions, là ».
Non, mais je pense que mon premier album m'a appris beaucoup de choses parce que ça a été vraiment une libération à plein de niveaux. Ça a vraiment été une façon de canaliser plein d'émotions. Mais ce que je me suis dit avec cet album-ci, c'est bon, je voulais essayer de, encore une fois, que le processus soit thérapeutique, mais peut-être de façon plus légère cette fois-ci. Et c'est pour ça que je pense que de m'être entourée vraiment d'amis proches, d'avoir... plutôt voulu exprimer le moment présent à travers les chansons, ça m'a permis de vraiment m'amuser à travers ce songwriting-là. Ça m'a permis aussi de fuir un peu une réalité qui était pas nécessairement très joyeuse cet été-là, à travers ces mondes imaginaires-là, à travers ces histoires que je racontais, à travers ces petites capsules d'émotions que j'essayais de mettre en chanson, mais vraiment avec une approche plus joueuse cette fois-ci, moins un truc de... Je vais me vider le cœur et vraiment passer à travers un processus douloureux dans le but éventuellement de me sentir mieux. C'était vraiment une thérapie qui était plus saine cette fois-ci, si on veut.
Pour toi, l'art, c'est pas forcément lié à quelque chose de douloureux?
Ben souvent oui, et parfois pas. Je pense que ça dépend. Beaucoup de mes chansons ont été écrites dans la joie. D'autres ont été un processus plus difficile, mais ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie d'atteindre en ce moment, c'est justement, même quand je parle de choses qui me sont très chères, qui sont parfois plus douloureuses, justement de m'entourer de personnes qui me connaissent bien, avec qui je peux avoir des conversations qui vont me faire grandir, qui vont me faire prendre conscience de plein de choses par rapport à moi. C'est vraiment c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça, parce que à travers le songwriting, je réponds à plein de mes questions existentielles. Je découvre de plus en plus de choses sur moi. je replonge dans certaines situations de ma vie que j'ai pas réussi à comprendre avant de les aborder en chanson. Et donc, c'est un privilège de pouvoir passer à travers ces processus créatifs-là. Tu sais, je ressens que j'ai trouvé une façon de canaliser des choses qui réellement auraient pu être douloureuses, mais d'une façon qui m'élève, qui me fait me sentir fière de moi, qui me fait découvrir plein de choses sur les gens avec qui je travaille, sur moi-même, sur la musique. Et donc, j'arrive à vraiment... vraiment y prendre énormément de plaisir aussi, même si je pense qu'il y a une petite part de douleur à certains niveaux, mm-hmm. parce que j'exprime des choses qui sont vraiment très personnelles. Je révèle plein de secrets dans mes chansons. Je me force à être très, très, très honnête avec moi-même. Puis des fois, c'est pas la chose la plus facile. Des fois, on aime bien se gaslighter nous-mêmes mm-hmm. dans la vie. Ça nous permet de se fermer les yeux sur certaines choses. Mais dans mon songwriting, je me permets pas de faire ça.
Comment tu fais?
Justement, de travailler avec des amis proches, c'est vraiment ce qui m'aide. Pendant longtemps, j'étais quand même capable de fuir certaines parties de moi-même, même quand j'écrivais, mais d'écrire avec des gens qui te connaissent bien, c'est vraiment une belle façon. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que... C'est une vraiment...
Donc, ils te disent quand tu bullshit et tout?
Ben, en tout cas, ils peuvent me poser des questions très précises. Tu sais, quand tu commences à raconter une histoire, ben, d'avoir des gens qui te connaissent, qui veulent approfondir l'histoire pour écrire une bonne chanson, ben, au final, ils te posent des questions qui t'obligent à te confronter toi-même à certaines réalités qui peuvent être difficiles à réaliser des fois. Mais je pense que d'écrire avec des amis proches, moi, c'est vraiment une façon que j'ai trouvé d'approfondir mon songwriting et mon cheminement personnel.
Au début, t'écrivais toute seule dans ton coin et ouais. Ça marchait pas comme tu voulais?
Ben, ça a marché pendant un bout de temps. Puis même à ce jour, j'aime ça des fois écrire seule. C'est vraiment des moments qui sont précieux, mais c'est un processus que je trouvais très solitaire, que je trouvais limité aussi. Et je me rends compte qu'il me, à certains niveaux, pour certaines chansons, me permettait pas d'aller autant en profondeur que quand j'écris avec d'autres personnes. Et j'étais des fois à court d'inspiration, tandis que quand je suis avec un ou deux bons amis qui écrivent de la musique aussi dans la vie, ça me permet de me nourrir de leurs expériences aussi. Ça donne des idées qui sont un peu à l'infini quand tu t'entoures de personnes créatives. Alors, c'est vraiment une richesse qui est arrivée un peu plus tard dans ma vie, mais je pense que j'avais besoin aussi de passer à travers un processus de songwriting en solo pendant un bout de temps pour justement trouver qui moi j'étais en tant que songwriter, ce que moi j'avais envie de raconter, juste de travailler sur mon art à moi avant de le partager avec d'autres personnes. Ça a été important pour moi, mais maintenant je trouve énormément de plaisir dans ce processus-là qui est moins solitaire qu'avant.
Et t'as pas eu peur au début, parce que c'est tellement flippant, je trouve, de devoir s'ouvrir à d'autres, de les laisser rentrer dans ses chansons. C'est tellement intime qu'au début, ça doit faire peur, non?
Oui, mais en même temps, j'ai commencé à coécrire avec des gens qui étaient déjà tellement proches de moi que c'était pas les choses les plus personnelles qu'on avait partagées nécessairement, le songwriting, puisqu'on j'écris avec principalement avec Jason Brando, qui est mon producteur. Ça fait 10 ans qu'on est, non seulement qu'on travaille ensemble, qui produit toutes mes chansons, mais qu'on est meilleurs amis. Alors, je me suis ouverte à lui plein de fois. Alors, c'est pas quelque chose qui était nouveau. Des fois, je trouve ça difficile quand j'écris avec une nouvelle personne que je connais pas. Ça peut être difficile et je l'ai quand même souvent fait. Ça amène d'autres trucs qui sont intéressants, mais quand c'est un truc très personnel, je trouve ça difficile d'écrire avec des gens que j'ai jamais rencontrés préalablement.
C'est quoi une des dernières choses racontables que t'as appris à ton sujet en écrivant?
Ouf, bonne question. Ben pendant l'écriture de 99 Nights...
Déjà, il a fallu apprendre à prononcer
99 Nights. Qu'est-ce que j'ai appris à mon sujet? Ben de manière générale, souvent, je me surprends à dire des choses que je dirais pas de manière conversationnelle. À travers mes chansons. Alors ça, c'est quelque chose que je réalise, c'est que j'ai une... Comment dire? Je veux pas dire une honnêteté, parce que je suis honnête dans la vie, mais peut-être une honnêteté un peu brutale dans mes chansons que j'ai pas dans la vie tous les jours. Et parfois, les gens, quand on me rencontre,
pour la première fois, ben justement, j'ai une réserve dans la vie que j'ai pas à travers mon songwriting. Et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à exprimer plein de choses différentes. Alors, c'est peut-être une réponse un peu générale, mais ça me permet de découvrir qu'en fait, j'ai moins de réserve. Je croyais que j'en avais pendant longtemps et je le réalise à travers le songwriting qui me permet d'être un peu plus direct, je pense, dans mes émotions, un peu plus unapologetic. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais...
Ouais, non, je sais pas
s'il y a une traduction exacte, mais ouais.
Coucou, ici la Fanny du montage. On n'a pas vraiment de mots en français, mais globalement, ça veut dire qui n'a pas peur de s'excuser. Bisous.
Je suis définitivement plus unapologetic dans mes chansons que dans la vraie vie.
Et t'aimerais être direct comme ça dans la vie aussi? Ou cet équilibre est
pas
bien?
Pas nécessairement, je l'aime l'équilibre. Je suis vraiment honnête dans la vie, mais ça me permet d'approfondir certaines choses à travers mes chansons. C'est juste d'autres facettes de moi, je pense.
T'as fait du xylophone.
Quand j'étais petite, ouais.
Pourquoi ce choix du xylophone?
Non, mais c'était le premier instrument. Ma mère m'a fait prendre des cours de xylophone quand j'étais en maternelle. Mais je suis pas devenue professionnelle de xylophone. Non, c'est pas trop tard.
J'étais assez surprise de voir que entre les deux albums, je crois que c'était à ce moment-là, t'as pris des cours de danse et t'as pris des cours avec un coach parce que tu trouvais que t'étais trop réservée physiquement sur scène et que tu te planquais derrière le piano et tout. Et moi, je m'attendais à ce que le mannequinat, ça t'ait donné un rapport au corps qui était plus chill. Et non, t'as eu besoin de ce... Qu'est-ce qui te bloquait? Qu'est-ce que t'as changé?
C'est vraiment différent de poser devant une caméra et de danser sur scène devant des milliers de personnes en chantant. Là, c'est quand même vraiment deux rapports au corps qui sont très... Alors, devant une caméra, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis à l'aise. Mais de chanter et d'exprimer des choses qui sont très personnelles. Parce que j'ai toujours réussi à me cacher derrière des personnages quand j'étais mannequin. Je veux dire, t'es habillée, maquillée, tu racontes une histoire qui est pas la tienne. Tandis que sur scène, il y a rien de plus vulnérable et de plus vrai que c'est une mise à nu carrément de chanter des histoires hyper personnelles, de les raconter. Puis je pense que le storytelling, il passe aussi par le corps. Tu sais, ça passe par l'instrument, ça passe par la voix, les cordes vocales, mais ça, le storytelling, il peut être approfondi par le corps aussi, puis c'était juste un rapport qui était pas naturel pour moi au début parce que pendant longtemps, je faisais juste jouer du piano sur toutes les chansons, puis là, je me suis dit, ah, ben, ce serait cool de pouvoir élargir encore plus cette façon de raconter les histoires, puis moi, de pouvoir intégrer les chansons dans mon corps à un autre niveau. Alors, à la base, les cours de danse que j'ai pris avec un coach, c'était vraiment juste pour moi, c'était pour me sentir... plus connectée et pouvoir approfondir les histoires que je racontais. C'était pas juste... Et pouvoir m'amuser, me laisser aller sur scène. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu énormément. Et donc, j'ai jamais été... je ressentais pas de malaise dans mon corps préalablement. C'est juste que j'avais envie d'approfondir quelque chose que j'avais jamais vraiment exploré. J'ai pas fait énormément de danse quand j'étais petite. J'en ai fait un petit peu comme ça, mais c'était pas un truc que j'avais... fait vraiment, j'étais vraiment plus en musique. Et donc, c'était juste une nouvelle façon de raconter et d'approfondir, je pense, l'expérience que moi-même, je pouvais avoir sur scène et aussi offrir aux gens qui venaient me voir.
Et comment t'as accepté cette mise à nu, justement? Le fait d'être sur scène et de dire, OK, enregistrer en studio, c'est super et on dégage des choses et tout, mais sur scène, là, les gens, ils vont te voir vraiment dans toutes les émotions, dans... Comment t'as accepté ça? Comment t'as plutôt géré ça?
Ben j'ai commencé, même quand j'étais petite, avant même d'enregistrer en studio et d'écrire mes chansons, je voulais faire tous les concerts à l'école. Tout ça, je pense que j'ai toujours été très attirée par ce moment de partage qui était le live. Puis je trouve que la musique prend vraiment tout son sens quand elle est partagée en contexte live. Alors, ça a toujours été naturel pour moi. C'était comme un besoin d'expression qui s'épanouissait d'autant plus quand il était partagé dans un contexte où il y avait des gens Et donc, c'est dur à exprimer. Il y a des gens pour que ça terrorise. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment énormément attirée, énormément fait de bien. C'est vraiment une partie de... Puis on en a parlé au tout début. C'est une des parties de mon métier que j'aime le plus, de pouvoir performer en live. Je trouve ça magique. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire ça en live. Alors, c'est jamais une question que je me suis posée de comment accepter ça. Pour moi, c'était... J'envisage pas mon métier sans cette facette de ce que je fais.
OK. Sur ton dernier album, il y a beaucoup cette notion, enfin, ce champ lexical de la respiration, de respirer dans la première, la dernière chanson et tout. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'était un choix déjà, ou est-ce que c'est juste arrivé comme ça, puis t'as dit, oh tiens, j'avais des petites obsessions?
Ben non, mais en fait, t'es la première à me le faire remarquer. Effectivement, dans Poppy, j'en parle, dans Next to You. Je pense que, alors, clairement, c'était pas voulu. Mais encore une fois, je pense que ça c'est très connecté au fait que le songwriting, pour moi, est vraiment une libération de plein de trucs, comme l'est un grand souffle. Et je pense que c'est pour ça, ça me permet de faire un restart sur plein de choses, comme une grande respiration nous permet de ponctuer une grosse journée. Des fois, le songwriting me permet de faire ça aussi. Mais j'avais jamais réalisé ça, mais je pense que ça vient, ouais, justement avec cette libération, se laisser aller. Et donc, c'est sûrement pour ça que c'est un thème qui est récurrent, mais faudrait que je réécoute les chansons dans lesquelles je parle de ça, mais effectivement.
Justement, le fait de prendre des grandes respirations, de laisser tomber les émotions pour mieux vivre le reste du temps, le milieu artistique, c'est pas un milieu qui pousse beaucoup à faire ça. C'est pas...
C'est vrai.
Et du coup, comment tu trouves l'équilibre entre faire les choses dont t'as besoin, dont tu sens que t'as besoin, et ce milieu qui est très demandeur, qui demande énormément de sacrifices?
Ben, c'est une bonne question, parce que je le découvre moi-même, et j'arrive de mieux en mieux à naviguer ça. Ça fait plusieurs années que je fais de la tournée, mais j'ai pas encore la réponse absolue à cette question-là, parce qu'il y a encore des débalancements dans ma vie. Mais encore une fois, je pense que mon besoin, ce besoin de créer, ce besoin de connexion aux autres par ma musique, ce besoin d'expression, pour moi, est plus fort que mon besoin de stabilité ou de vie normale, quoi.
T'es quelqu'un de calme à la base, enfin, de qui aime bien être, tu vois, posé chez soi et
Je suis assez casanière. Ouais. Alors pour moi, ça, c'est un gros sacrifice, effectivement. Mais je pense que mon besoin de, comme je l'ai dit, de créer et de vivre toutes ces émotions-là à travers mon métier est plus grand que mon besoin d'être à la maison et d'avoir un confort que je n'ai vraiment pas dans ma vie, dans ma vie présente. Mais je trouve énormément de bonheur dans ce que je fais. Mais c'est vrai que ça vient avec des sacrifices. Puis j'apprends à naviguer à travers ça au fur et à mesure que je le vis.
Dans une interview, tu disais que quand tu as composé le deuxième album, c'était un mélange des sentiments que tu ressentais à ce moment-là, notamment de la joie et de la solitude. Et dans Confetti, il y a aussi cette notion de se sentir seul quand il y a des gens et tout ça. Est-ce que c'est un truc que tu ressens encore beaucoup, ou est-ce que c'est assez bizarre comme métier d'avoir des milliers de personnes qui te crient chaque soir que t'es fantastique, et puis après tu vois, il y a des hauts très hauts,
t'es seule dans ton bus,
c'est ça, et c'est un peu tristoun, quoi.
Ben c'est vrai que c'est des facettes de ma vie dans lesquelles j'ai juste accepté la solitude qui vient avec, parce que c'est vrai que, puis je crois que ça s'applique à tous les artistes, mais c'est vraiment pas un métier qui est standard, c'est vraiment pas un mode de vie qui est standard, c'est pas des horaires qui sont standards, c'est dur d'entretenir des relations de façon équilibrée, c'est dur de voir ses amis, sa famille. Alors, beaucoup de choses qui permettent à 99% des gens de se sentir ancrés et de se sentir, tu sais, comme si on a les pieds sur terre, ben moi, j'y ai plus ou moins accès à cause de ce mode de vie-là. Alors, il faut que je trouve d'autres façons de... Et je pense que ça m'aide énormément de... Et ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, mais le fait d'avoir un amoureux qui, lui aussi, est artiste dans la vie et qui comprend à fond mon mode de vie, c'est vraiment quelque chose qui me fait me sentir moins seule, parce que j'ai été souvent dans des relations dans lesquelles les personnes faisaient pas nécessairement ce que je faisais et comprenaient pas mon choix, comprenaient pas ce besoin d'aller vivre des grandes émotions tout le temps, et qui comprenaient pas non plus ces sacrifices-là, parce que eux n'avaient pas cet appel-là. Et donc, je pense que de vivre avec quelqu'un qui lui aussi a ce mode de vie-là, c'est quelque chose qui me fait vraiment me sentir vachement moins seule dans ce que je fais. Mais je me sens isolée et je me sens souvent, c'est comme un truc où, bon, j'ai consulté pour ça, j'ai vu des psys, je parle beaucoup à mes amis, tu sais, des fois, je me sens un peu incomprise dans certaines facettes de ma vie parce que, effectivement, les gens qui m'entourent, c'est normal, ne comprennent pas ce que je fais, ne comprennent pas nécessairement les sacrifices parce que c'est pas une vie qui est standard et ça s'explique pas nécessairement, justement, cet immense gap entre justement le moment d'adrénaline extrême sur scène, cette joie immense, puis le moment où on se retrouve fucking seul dans l'autobus pendant des heures et des heures, des jours au milieu de nulle part où on n'a pas vu les gens qu'on aime depuis des mois. Tu sais, c'est vraiment un mode de vie qui est en montagne russe, mais j'y retrouve vraiment plus de bonheur que de malheur. Alors au final, je suis vraiment... je suis vraiment heureuse, je suis plus heureuse que je l'ai jamais été, puis je pense que ça vient aussi avec le fait que j'apprends de plus en plus à naviguer la vie de tournée, à consolider c'est ça, mon mode de vie avec les relations que je dois entretenir, tout ça, mais c'est un work in progress.
Et justement, c'est ces grands moments de communion avec le public et tout, comment tu gères ton ego? Parce que c'est compliqué. Enfin, si t'es quelqu'un d'assez anxieux, passer de se poser plein de questions sur quelque chose à des gens qui te disent que t'es merveilleuse et qui le crient très très fort, est-ce que ça, tu l'entends quand ils le disent, ou est-ce que il y a toujours des voix un peu négatives dans ta tête qui te mettent des objectifs toujours plus haut?
C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a plein de choses que je peux faire personnellement pour travailler sur moi, pour être une meilleure artiste, une meilleure personne. Mais j'arrive de plus en plus à écouter cette voix de façon positive, ou en tout cas à transformer cette voix pour qu'elle soit plus encourageante que démotivante. C'est sûr que bon, j'ai encore, on a tous une petite voix négative dans la tête, puis c'est vrai que des fois, elle me dit que je suis pas assez bonne, pas assez ci, mais j'arrive de plus en plus à ce qu'elle soit constructive, la voix. Je travaille là-dessus. Et c'est vrai que le gap entre... Les moments où... J'essaie de penser quand on me félicite, ou en tout cas qu'on me met un peu sur un piédestal. Évidemment, je le vis pas comme une... Comme un fait, quoi. Dans le sens où je sais
c'est bon,
que...
j'ai fini le jeu.
Non, mais c'est... C'est vraiment dur de répondre à cette question-là, mais je pense que moi, je sais ce que je peux faire pour continuer à m'améliorer en tant qu'artiste, pour donner un concert qui est encore plus intéressant, pour connecter encore plus avec les fans. Et je me donne vraiment la responsabilité de le faire et de travailler sur moi et sur mon craft et sur mon art. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est valorisant de façon saine, en sentant que je peux continuer à m'améliorer puis à approfondir l'introspection, mais en même temps pour pouvoir donner quelque chose d'encore plus intéressant à mon public qui est vraiment fidèle. Alors j'essaie de le voir vraiment plus comme un échange qui peut être valorisant et constructif.
Ok. T'écris beaucoup quand t'es en tournée?
Je trouve que c'est vraiment dur d'écrire quand je suis en tournée. C'est vraiment un mindset qui est tellement différent. Donc, non, pas énormément. J'écris un peu, mais c'est surtout dans des moments où je tourne pas que j'écris.
OK. Et t'écris... Est-ce que maintenant que t'as déjà deux albums et tout, est-ce que t'as une idée précise de ce que tu veux quand t'écris, ou est-ce que juste c'est les émotions qui sortent et on verra ce que ça donne plus tard?
Ça dépend. Des fois, je sais exactement ce sur quoi je veux écrire. J'ai plein d'idées dans mon téléphone, comme ça, que je note. Des fois, je sais que je vais écrire une chanson. Des fois, je connais le titre d'avance. Et des fois, au contraire, c'est comment je me sens aujourd'hui et comment cette émotion se traduit en musique. Comme je l'ai fait un peu sur tout l'album 99 Nights, c'était plus ça le processus, mais des fois, c'est différent.
T'habites à Paris maintenant?
Ouais.
Est-ce que c'est un truc qui fait un peu fantasmer quand on vient du Canada à Paris, ou c'est juste un marché différent, on va dire?
C'est sûr que c'est une ville qui est beaucoup plus grande que Montréal. Moi, je pense que Paris est une ville qui fait fantasmer partout dans le monde, parce que c'est tellement une ville merveilleuse et culturellement très, très, très active et dynamique. Et il y a plein de choses qui se passent à Paris. Mais moi, j'étais venue souvent à Paris dès mon enfance et pendant mon adolescence. Alors, je connaissais quand même la ville. Alors, j'en avais pas cette idée, par exemple, plus grande que nature, ou je savais ce qu'était Paris et j'avais envie de vivre ici.
Tu savais qu'en vrai, ça sentait le pipi, quoi.
que ça sentait le pipi, mais que ça restait quand même merveilleux pour plein de raisons. J'étais informée d'avance, mais j'avais envie justement de vivre ici en connaissance de cause. Alors, c'est encore plus, je crois que c'est encore mieux, c'est encore plus excitant.
Là, tu viens de sortir la version de luxe de l'album avec des titres en français. Est-ce qu'il y a des émotions que tu te vois d'office mieux exprimer dans une langue ou une autre, ou est-ce que c'est assez fluide?
Non, il y a vraiment des parties de ma personnalité qui s'expriment plus précisément dans une langue ou une autre. Je pense que j'ai vraiment un rapport plus intime à la langue française, mais j'arrive à exprimer des idées peut-être un peu plus sassies, un peu plus brusques, mais qui me libèrent de plein de trucs en anglais aussi. Alors ça dépend, mais c'est vraiment des parties légèrement différentes de ma personnalité qui s'expriment dans les deux langues.
C'est quoi ton programme idéal des 5 prochaines années?
Mais de continuer à tourner, c'est sûr. Là, j'ai envie de sortir un album dans pas trop longtemps. J'ai déjà plein d'idées de chansons, j'ai déjà des maquettes qui sont prêtes, je travaille déjà sur le prochain, donc j'ai envie d'enchaîner avec un prochain album plus ou moins rapidement, en tout cas quand il sera prêt, et de continuer à ce que mon projet se fasse découvrir et de continuer à le partager avec le plus de monde possible. C'est vraiment cool pour moi de tourner partout dans le monde puis de présenter ces chansons-là qui sont intimes et qui me font me sentir connectée à plein de monde dans plein d'endroits différents. C'est extraordinaire, puis j'ai envie de continuer à vivre ça, donc voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
J'espère que l'épisode vous a plu. Charlotte Cardin sera en tournée en Belgique, en France et dans plein d'autres pays début 2024, et puis au Zénith de Paris le 6 décembre. En description, je mets les liens pour réserver, la suivre sur les réseaux ou pour écouter sa musique. Et puis tant que vous y êtes, n'hésitez pas à suivre @JeanQuiDoute sur Instagram et à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour ne rien manquer de la suite et avoir régulièrement des vidéos, des photos de chats et des podcasts. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'intrépide Maxime Wathieu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.